Au Café Service, une émission au service du petit marché. Des questions, des gestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Café Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Comment annoncer à une personne qu'elle est atteinte du VIH/SIDA et comment l'accompagner? Jean-Serge Lune.
Merci beaucoup pour la question, c'est une question cruciale. Mm-hmm. Je crois qu'il est très important de savoir en amont que la communication pour le changement de comportement, de manière générale, pour la communauté et pour la personne elle-même, va jouer un rôle significatif dans la phase, même pour passer le test et pour accepter les résultats. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on rappelle qu'il est très important que l'annonce des résultats s'inscrit dans un contexte où la communauté, où les personnes sont sensibilisées, ils connaissent, ils ont des informations de base sur le VIH. Mmh. Parce que l'une des choses qui provoque la psychose par rapport au résultat, c'est le fait que pour la plupart des personnes, avoir le VIH ou être infecté par le VIH signifie la mort.
Oui. Alors, nous savons que le dépistage volontaire est l'un des moyens préconisés pour réduire la propagation du sida, mais faudra-t-il encore savoir comment s'y prendre pour annoncer la nouvelle à une personne, par exemple, qui est testée positive. La personne passe fait son dépistage et à la fin, le résultat est positif. Alors maintenant, comment s'y prendre pour faire l'annonce?
Pour annoncer les résultats, il faut que ce soit fait par une personne appropriée, une personne formée. Nous avons des prestataires de services qui sont formés pour communiquer des résultats après un CDV. Et dans ce contexte-là, l'une des choses qui est très importante, c'est le cadre de l'annonce. C'est le cadre de l'annonce. Mm-hmm. L'annonce doit se passer dans un cadre approprié, un cadre qui garantit la confidentialité.
Ou par exemple,
généralement, quand on a le centre CDV, ou même quand on est dans un hôpital, parce qu'on peut sortir un CDV dans l'hôpital, l'annonce ne va pas s'annoncer sur le lit où le malade se trouve avec tous les autres. Il faut mettre le malade ou la personne.
CDV, c'est quoi?
Conseil pour le dépistage volontaire.
Conseil,
d'ailleurs, on commence par le conseil. Mmh. Avant le dépistage, il y a un conseil qui est donné à la personne qui va passer au dépistage.
Qu'est-ce qu'on lui dit, généralement?
On lui rappelle les informations de base sur le VIH. On lui rappelle le fait que être infecté ne signifie pas mourir et que c'est possible de vivre longtemps même si on est infecté. Mmh. Donc ce sont ces informations de base. On l'informe sur les conditions dans lesquelles le dépistage va se passer. Mmh. Et on requiert un certain nombre d'informations par rapport à lui. Si jamais le résultat était positif, qui est-ce qui voudrait qu'il soit informé à part lui-même? Comment est-ce qu'il voudrait? Donc un certain nombre d'informations qui préparent psychologiquement la personne à savoir que le résultat peut être positif, tout comme il peut être négatif. Mmh. Donc, il y a un travail qui s'est fait en amont. Lorsque ce travail est bien fait en amont, quand la personne arrive, avant de lui donner le résultat, on refait encore un peu ce qu'on a fait avant. On lui rappelle des informations qui étaient données avant, mmh, sur le VIH, sur les perspectives, même si on a on est infecté, sur la possibilité de trouver un appui dans sa communauté ou dans les environs de là où il est, mmh, et comment y accéder. Et ensuite, on s'assure si la personne est prête pour recevoir les résultats. Il doit pouvoir dire « Je suis prêt, vous pouvez m'annoncer ». Et puis, on lui donne les résultats.
Mais si la personne n'est pas prête?
La responsabilité du prestataire de service, c'est de réduire le plus possible la peur, disons, de travailler avec les clients, comme on l'appelle, mmh, qui a passé son test, c'est de les préparer le plus possible à accepter de connaître son résultat, parce qu'il est important qu'ils connaissent son résultat.
Parce que généralement, la peur est au rendez-vous.
Bien sûr. Mais lorsque le prestataire s'y prend bien, lorsque le cadre garantit la confidentialité, c'est très important l'aspect confidentialité, mmh, et lorsque le message de préparation donne à la personne une perspective d'avenir, que son résultat soit négatif ou positif, si il est rassuré qu'il peut vivre, qu'il peut être accompagné, qu'il peut être soutenu, et ça c'est très important. Généralement, les personnes acceptent qu'on leur annonce les résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'après cette annonce, il n'y aura pas une perturbation. On assiste à des perturbations, et c'est une fois de plus la responsabilité du prestateur de s'assurer que le client a digéré l'information qu'il vient de recevoir, mais c'est aussi la responsabilité de la communauté de pouvoir accueillir, accompagner. C'est pour ça qu'il est très important que l'annonce des résultats ne se fasse pas dans un environnement où les gens ne connaissent rien.
Tout à l'heure, vous étiez en train de raconter, une histoire, quelque chose qui s'est passé, quelqu'un qui était malade, et les membres de la famille harcelaient tellement les médecins pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans
l'état? Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas préparé à l'environnement. Donc, on est dans un hôpital, j'étais le nom par respect pour les médecins, pour tout le monde. On est dans un hôpital, je suis en ce moment-là encore étudiant, et quelqu'un était malade, très malade. La famille voulait savoir après les examens qu'est-ce que le médecin a trouvé, parce que le médecin n'avait rien dit. La famille ne savait pas, ça faisait quelques jours que leur frère était là. Ils n'avaient aucune information sur l'état de santé. Ils avaient tellement poursuivi le médecin pour savoir, il leur disait que je vais dire. Et finalement, le médecin a craqué. Vous leur dites, mais vous m'embêtez un peu trop là. Donc votre frère va mourir, il a le sida. Et la famille a commencé à pleurer dans le couloir de l'hôpital. Vous voyez, c'est que ça peut provoquer comme panique. Pour les autres malades, mais aussi pour la personne elle-même concernée. Ils voient ça, ce membre de famille qui parlait avec le médecin qui revient en train de pleurer. C'est pour lui dire que non, nous pleurons parce que tu es mort ou tu vas mourir.
C'est pour lui dire que non, tu es déjà fini. C'est fini pour toi, tu es déjà fini.
Or, l'un des messages les plus importants dans la préparation, c'est que le VIH, tu peux être infecté par le VIH, mais cela ne signifie pas que tu mords, tu meurs le lendemain. Que tu peux vivre et même vivre plus longtemps avec le VIH si tu vis dans un environnement psychosocial, socio-affectif qui te soutient.
Vous avez des questions et des préoccupations, composez les 081-890-6394, on attendait pas les dernières minutes, vous pouvez déjà nous appeler. Nous avons quelques questions de certains internautes qui nous ont écrit depuis la page Facebook, le Capi Service. Aboubacar Issa de Boutengo vous pose cette question, il dit, s'il arrive que la personne sourde-muette, si la personne qui est venue pour le dépistage est sourde-muette, comment on peut lui annoncer le message après le dépistage?
Je dois avouer que c'est une question très importante. Je n'ai pas, à ma connaissance, une expérience particulière dans ce domaine, mais je crois que même les personnes sourdes-muettes ont le droit de connaître leur sérologie. Et donc, il est du devoir de ceux qui organisent les services de dépistage de pouvoir tenir compte de cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont chargées de communiquer avec les personnes sourdes-muettes. Il y a l'école pour les sourds-muets. Donc, il y a un moyen, si ce n'était pas encore opérationnel, il y a moyen de cibler les enseignants, ou du moins tous ceux qui travaillent dans l'environnement des sourds-muets, de les former pour qu'ils aient des connaissances suffisantes, non seulement pour donner partager à faire la sensibilisation sur le VIH, mais aussi pour être utilisés comme prestataires dans le domaine du conseil.
Christophe Kalongi de Lubumbashi nous dit, d'après lui, il faut utiliser un médecin psychologue pour annoncer les résultats au cas où c'est positif.
Le VIH a cessé d'être une affaire de médecin seulement. C'est pour ça que vous avez entendu, je suis en train de parler de prestataire de service. Un prestataire de service, dans le cadre de counseling pour annoncer les résultats, ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier préparé pour ce faire, ça peut être un pasteur formé en counseling pour ce travail, ça peut être n'importe quelle personne, mais qui est formé, qui est outillé pour faire le counseling, pré-test et post-test. Et donc, ce n'est plus une affaire de médecin. Non, le VIH n'est pas une affaire de médecin.
Jean Dambos est en ligne depuis Kolwezi, dans la province du Katanga. Bonjour Jean.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Moi, ma préoccupation est celle-ci. C'est-à-dire quoi? J'ai entendu l'invité dire que l'information doit se passer donc confidentiellement entre le malade et le médecin. Alors moi, ma question est celle-ci. Je voudrais savoir si c'est possible aussi de préparer ou soit d'informer les membres de la famille puisque ce sont eux qui vont comment accompagner le malade à suivre le médicament à l'hôpital. Donc, dans ces cas, est-ce qu'il y a aussi moyen d'en parler aussi aux membres de la famille pour qu'il y ait une bonne poursuite des médicaments?
Merci Jean Dambos. Victor Ingopa, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Sampi. C'est une petite question que je vais vous demander à l'invité.
Oui.
Je venais de parler que la transmission de l'information peut se passer entre les médecins et les malades. Alors, prenons un exemple. J'ai pris un ami qui m'a intéressé d'aller faire le dépistage volontaire. Nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin a fait son travail, et par après, le médecin a trouvé que l'ami était déjà infecté. Vraiment, un ami intime. Le médecin n'a pas eu le courage d'informer les malades directement. Le médecin m'a informé, moi, son ami à ce malade-là.
Oui.
Alors, moi, j'ai eu peur d'informer mon ami parce que c'était un ami intime. C'est partager des bonnes choses. Ça me disait déjà bon, à moi, vraiment, j'avais des regrets. Parce que l'ami était très infecté. Je n'avais pas vraiment le courage d'informer l'ami. Le médecin de l'autre côté n'a pas eu le courage d'informer mon ami parce que c'est son cousin. Dans ce cas-là, qui peut informer l'autre? Qui peut avoir vraiment le courage d'informer les malades? Voilà ma question.
Merci, Victor Ingopa de Kananga. Thomas est à Kalima, dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, M. Jedi.
On vous écoute, Thomas.
Ma question est celle-ci. Nous connaissons déjà une femme qui est déjà atteinte par la maladie du sida.
Oui.
Juste après le dépistage, le médecin lui dit d'être tranquille, de ne pas beaucoup plus contaminer les autres. Mais cette femme, en fait, elle est toujours ambitieuse. Elle veut toujours aller avec d'autres hommes. Et le médecin qui voit que la femme est déjà atteinte par le sida. Comment elle peut toujours aller dans des bars et aller contaminer les autres? Est-ce que le médecin n'a pas le droit d'être plainte? Merci.
Merci Jean Dambos. Voilà. Jean-Serge, vous avez beaucoup de questions. La première, celle de Jean Dambos de Colosi. Vous avez parlé du caractère confidentiel de l'annonce. Alors il dit, est-ce que c'est possible d'en parler aussi à la famille? Parce que c'est la famille qui va aider et accompagner la personne.
Je vais combiner cette question-là et la deuxième. C'est dans le même sens.
Celle de Victor.
Oui, la loi sur la confidentialité n'exclut pas le fait de communiquer à une tierce. Mais il y a des conditions et toute personne qui est associée dans ce processus est tenue à la confidentialité. C'est-à-dire à ne pas partager cette information avec quelqu'un d'autre sans une autorisation préalable du concerné. Et ici, il faut rappeler qu'on encourage toujours aux personnes vivant avec le VIH, plutôt aux personnes dépistées positives, d'accepter que leur information soit partagée avec une ou deux personnes de leur choix, susceptibles de les appuyer, de les accompagner, parce qu'il est difficile d'assumer seul le poids d'une telle information.
Donc, même dans la famille,
on peut trouver.
Il revient.
Mais c'est lui-même qui
doit déterminer.
Oui, dans la famille, vous pouvez
informer
à maman ou à papa ou à mon frère ou à ma sœur. Il peut refuser qu'on informe la famille et choisir un ami qui le signe plus proche. Ça peut être sa femme. Mais on encourage que ce soit la personne qui est le plus proche de vous, qui est le plus susceptible de vous accompagner au mieux dans ce processus. Et donc, lorsque c'est un homme qui vient, on l'encouragerait d'annoncer qu'on annonce aussi à sa femme, parce qu'on estime que la femme est la personne qui partage le plus possible l'intimité de la personne et qui peut le mieux l'appuyer, mais on acquiert son autorisation pour se faire. Et toutes les personnes, que ce soit amis, parents ou qui que ce soit qu'on intègre dans dans ce secret, est tenu au secret, sous peine de la loi.
Donc on ne doit pas le dire à n'importe qui,
pas n'importe comment, et toute personne à qui on le dit n'a pas le droit de divulguer cette information à n'importe qui, n'importe comment, sans autorisation préalable du concerné, c'est-à-dire de la personne testée positive.
Alors pour le cas de Victor Ingopa, il dit il a accompagné un ami,
le médecin est simplement trompé de principe.
Il n'a pas le courage de le dire.
Oui, s'il n'a pas de courage, le médecin peut confier le dossier à un de ses collègues prestataires parce qu'il a cette responsabilité. Le travail de la médecine n'est pas un travail individuel. Il peut intégrer un des confrères ou il peut confier le dossier au service des counseling dans la plupart des hôpitaux. Avec l'approche intégrée, on a toujours un service de counseling avec quelqu'un préparé pour annoncer des résultats comme des résultats de dépistage sur le VIH. Et donc, il n'a pas à donner cette information à un ami alors qu'il n'a pas donné l'information à l'intéressé. Et donc,
mais l'ami n'a pas eu aussi le courage.
Oui, mais l'ami est entré dans une affaire, il n'est pas préparé pour ça. Donc, c'est sûr qu'on lui a donné des résultats sans l'avoir préparé. Toute annonce de résultats, même au tiers, doit passer par une préparation de la personne qui va recevoir le résultat. Donc ça, c'est très important. Pour la question de la femme, d'abord, j'étais en train de me demander comment est-ce que eux, je crois que c'est à Kalima, comment est-ce qu'ils savent que cette femme-là est positive, je ne sais pas. Mais si ils le savent par une voie, et c'est
généralement, les informations circulent rapidement.
Oui, mais le problème, c'est que on ne peut être sûr que la personne est infecté par le VIH, que si c'est à l'issue d'un test de dépistage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé au centre de dépistage, ce n'est pas parce que quelqu'un maigrit, ce n'est pas parce que quelqu'un a un comportement qu'on juge à risque, qu'on doit conclure que cette personne a le VIH. Donc ça, c'est très important. Il faut que ce soit à l'issue d'un test de dépistage pour le définir. Mais quand cela ne tient, la loi sur portant protection des personnes avec le VIH donne des directives, donne aussi des devoirs. Une personne testée positive a la responsabilité de protéger son environnement. Donc, elle ne peut pas, je voulais dire, avoir de relations non protégées qui vont
arriver.
Donc, maintenant, elle ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir de rapports sexuels. Elle a le droit de continuer à avoir des rapports sexuels
protégés,
que ce rapport soit protégé.
Voilà.
Donc, le fait qu'on la voit dans un bar ne veut pas dire qu'elle met la population à risque.
Bien. Deux autres auditeurs en ligne. Christian Gabou nous appelle de Pandroma, dans la province orientale, et Gabriel Betou est à Kalima. Christian, bonjour.
Ah, bonjour, j'ai dit Pandroma.
On vous écoute, Christian.
Alors, ma question, c'est pour nous, une personne qui avait choisi cette personne.
Christian, parlez un peu plus fort, Christian.
Oui, j'ai une personne qui est avec une perturbation. Comment on peut procéder à lui annoncer ce résultat? Et une deuxième question, c'est un expert avait annoncé le résultat d'une personne à cause du VIH, mais après quelques temps, il est allé se prendre. Mais il parle, la famille a saisi la justice. On a condamné ce monsieur-là et c'est possible de condamner ce monsieur pour juste là annoncer le résultat de cette personne-là.
Mais est-ce que le monsieur en question, Christian, est-ce que le monsieur qui est allé annoncer la nouvelle était un prestataire bien formé?
Oui.
Un médecin?
Alors la personne a accepté qu'on lui donne le résultat. Mais quand on lui a donné le résultat, il est allé se prendre. Donc, ça, on a suivi la justice. Donc, on a condamné ce monsieur. Est-ce que c'est possible comme ça que le vicaire nous fasse cette image?
Merci pour la question, alors.
Oui. Troisième, c'est tout juste une interpellation. Donc, chaque fois qu'une personne informe le résultat, informe la personne avec son résultat, il faut qu'il y ait quand même l'indépendance par le langage. Pas utiliser ça que ma famille, pour lui, je veux parler avec une bonne manière. Mais ça, je ne parle de ma famille, je lui annonce seulement les résultats avec brutalité. Il faut qu'il y ait l'indépendance.
Oui, il ne faut pas annoncer les résultats avec brutalité. Merci Christian Gabou. Gabriel Betou, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour Monsieur Didier, bonjour à tous les auditeurs de Kalima, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Moi, je vois souvent à l'hôpital, non, nous cherchons les groupes, par exemple, zéro positif. Or, si vous parlez, je suis du groupe zéro positif. Par exemple, j'ai gagné un cacham et aussi du groupe zéro positif. Maintenant, le médecin dit que non, mais j'ai dit, va donner à Gabriel le sang. Maintenant, le médecin répond maintenant, j'ai dit et Gabi, ils sont de même groupe zéro positif. Maintenant, leur sang ne se rassemble pas. je demande d'abord à notre invité, ce n'est pas la façon aussi de annoncer la personne du VIH indirectement. J'ai dit et je vous remercie.
Merci. Gabriel, Moïse, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité. J'avais deux petites préoccupations. La première, simplement, est sur le positif sur le conseil de dépistage. Combien d'années est-il vivre? La deuxième question, quel régime alimentaire à prendre après avoir été atteint du sida? Merci pour vous.
Merci à Moïse de Calémie. Jean-Serge, vous avez la parole. Christian a parlé d'une personne hyperfendue. Comment l'annoncer la nouvelle?
Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que dans le processus de préparation de la personne, mm-hmm. il y a un certain nombre d'informations qu'on requiert de l'individu ou du client. Ok? Donc, le prestataire de service devra tenir compte de ces aspects des choses avant de pouvoir annoncer le résultat. Mm-hmm. D'ailleurs, le but de préparation, c'est pour que même si la personne est hypertendue ou pas, qu'il reçoive l'information de manière modérée, de manière
tempérée,
avec moins de chocs. C'est réduire le plus possible le risque de choc. C'est ça l'objectif même de conseil pour les dépistages volontaires.
On a parlé aussi d'un prestataire de service qui a annoncé la nouvelle et la personne est allée se pendre. Ce prestataire a été condamné.
Oui, je ne sais pas dans quelles conditions le prestataire a été jugé, je ne sais pas dans quelles conditions il a fait ce travail, mais dans le cadre de la prestation de service pour le counseling, il y a toute une chaîne, il y a des registres, donc il y a moyen d'établir la responsabilité directe du prestataire. Mais tout comme le prestataire peut être n'a pas avoir des responsabilités directes sur la pendaison s'il a suivi le chemin comme il s'est devait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire simplement qu'il s'est pendu parce qu'on lui a annoncé les résultats ou parce que le prestataire n'a pas bien fait son travail.
C'est peut-être parce qu'il n'a pas été bien accompagné.
Oui, on peut annoncer de bons résultats, mais comment est-ce que quand la personne arrive dans sa communauté, comment est-ce qu'il est accueilli, comment est-ce qu'il est accompagné, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas me prononcer, et je ne pense pas, et je l'ai dit ici, pour que les juridictions qui traitent ce genre de cas, parce qu'il y a une loi qui existe sur la protection des personnes vulnérables du VIH, mm-hmm. et ils peuvent aussi recourir aux experts dans le domaine du VIH pour savoir comment est-ce qu'on procède, ça leur permet d'établir leur jugement pour répartir les responsabilités.
Mm-hmm. Et Moïse Décalémie, il dit à une personne, après le dépistage, si la personne est séropositive, combien d'années peut-elle encore vivre et quel est le régime alimentaire.
Ceci dépend. Ça ne dépend pas de l'annonce du résultat, ça dépend des conditions d'accompagnement. Mmh. Une personne qui vit dans un environnement psychosocial et socio-affectif équilibré, où elle est acceptée, elle est accompagnée, elle accepte elle-même sa situation, mmh. cette personne peut vivre le plus longtemps possible. Mais ça dépend aussi, comme on a parlé de l'alimentation, cette personne a besoin d'une alimentation suffisante et équilibrée. C'est ce que je peux dire au sujet de l'alimentation. Mmh. Une personne a besoin, dans la communauté, a besoin de réduire les autres risques. Par exemple, il y a des activités qui imposent un effort au-delà que le corps ne peut supporter par rapport à son état. Donc, il doit tenir compte de tout le conseil donné par le médecin pour pouvoir vivre le plus longtemps. Et si cette personne suit tout ce conseil, il peut vivre plus longtemps. J'ai dit plus longtemps, ça peut aller jusqu'à 15, 20, jusqu'à 25 ans. Ça dépend de l'environnement dans lequel la personne va évoluer.
Benjamin Matesso nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je vais poser la question à l'invité de savoir si un enfant à l'âge de 8 ans est éteint avec un VIH. Donc, comment est-ce qu'on peut l'annoncer?
Merci beaucoup. Je crois que le cas des enfants est un cas particulier. Les enfants n'ont pas une responsabilité. La responsabilité revient aux parents. Donc, le processus même de dépistage pour les enfants, d'après la loi, impose que l'enfant soit accompagné de son responsable direct, de son tuteur. Donc, tous les processus n'est pas pris en charge par l'enfant, mais par celui qui répond de l'enfant.
Mmh.
Donc, c'est même déjà la loi. Vous ne pouvez pas organiser un dépistage volontaire sur un enfant dans la mesure où un enfant ne peut pas prendre une décision éclairée. Donc, un enfant ne peut pas faire un dépistage volontaire. parce que l'enfant n'a pas une décision éclairée, ne peut pas prendre une décision éclairée, et donc c'est ce sont la responsabilité des parents.
Blanchard Luana de Kumbandaka nous a écrit, il dit ceci, quel type de conseil peut-on donner à une personne atteinte du VIH-SIDA pour qu'elle ne se sente pas traumatisée après le dépistage?
Tout à l'heure, j'ai parlé de le rappeler que être infecté par le VIH ne signifie pas la mort. Qu'on peut vivre plus longtemps, et même plus longtemps que ceux qui ne sont pas atteints du VIH, si on accepte son état sérologique et si on mène une vie normale. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure de l'alimentation, une alimentation suffisante et équilibrée. Troisièmement, j'ai parlé des activités physiques équilibrées, y compris le rapport sexuel. Il a le droit d'avoir des rapports sexuels, mais il doit être équilibré dans tout ce qu'il fait. L'utilisation correcte et systématique du préservatif, si jamais il voulait avoir de rapports sexuels, c'est autant de conseils, mais aussi c'est faire, consulter périodiquement pour qu'on fasse le bilan général de son état de santé, ne jamais laisser une petite maladie, même qui paraît comme une maladie bénigne, s'installer comme la malaria, aussitôt qu'il y a des symptômes ou il y a une petite attaque, voir directement le médecin, éviter l'automédication, parce que l'automédication peut compliquer la situation. Donc ce sont autant de conseils, ne pas s'isoler, rester dans la compagnie, dans la communauté, parce qu'on a besoin de la chaleur de la communauté.
Et si la communauté, vous rejette, ça c'est des choses qui arrivent souvent.
Si la communauté vous rejette, il y a sûrement quelque part quelqu'un, il y a une structure, il y a des gens de bonne volonté qui peuvent vous accueillir et vous accompagner et même aider la communauté à vous accepter. C'est pour ça que nous mettons dans cet ensemble, je l'avais déjà dit au début, la communication pour le changement de comportement ne doit pas concerner que la personne qui est infectée, mais ça doit concerner toute la communauté parce qu'il y a un ensemble de comportements qui peuvent favoriser l'accepte des résultats ou non et qui peuvent permettre aux personnes testées positives de vivre longtemps ou pas.
Marc Mahamba de Kisangani nous a écrit sur la page Facebook de Café Service, il dit si la personne est allée se faire dépister, c'est qu'elle s'est déjà préparée pour recevoir les résultats. Rien de plus compliqué que de donner les résultats.
Non, ce n'est pas toujours le cas. Les gens vont se faire dépister pour plusieurs raisons, donc ce n'est pas toujours qu'il est suffisamment préparé. On ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Il y a des personnes qui ne savent pas les risques qu'ils ont couru avant dans leur comportement parce qu'ils ne pensaient pas qu'un tel comportement pouvait être un comportement à risque. Et donc, lorsqu'il est en face du prestataire, lorsqu'on lui rappelle un certain nombre de comportements qui sont des comportements à risque, généralement, ça change sa perception. Et donc, ce n'est pas simplement parce qu'il est venu qu'il est prêt. Il faut encore le préparer. S'il était déjà prêt, la deuxième préparation ne fera que renforcer sa disponibilité à accueillir les résultats de manière positive.
Et après l'annonce, il faut accompagner la personne.
Il faut accompagner. Il y a des structures d'accompagnement. Généralement, on plaide pour un paquet complet. Une structure qui organise le dépistage doit avoir la possibilité de donner des informations en amont, les paquets minimum sur les comportements sur le changement de comportement, doit être en mesure de faire le pré-test et le post, plutôt les counseling pré-test et les counseling post-test, et un mécanisme d'accompagnement. Ça peut être directement cette structure ou peut collaborer avec les autres structures où on peut référer les personnes à tester positif pour un suivi. Ça peut être un suivi médical si c'est le besoin, ça peut être un suivi psychosocial s'il y a besoin, ça peut être un suivi économique s'il y a besoin. Donc, selon le besoin de la personne, on va l'orienter vers la structure qui peut assurer l'accompagnement post-test.
Jean-Serge Loumou, expert en communication pour les changements de comportement sur le VIH-SIDA, je vous remercie.
Je vous en prie.